Mesdames et messieurs fidèles auditrices et auditeurs de Radio Capitale, membres de la presse, bonjour et bienvenue à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. À la une de cette conférence de presse, déclaration de la MONUSCO, pas d'alternative à la mise en œuvre complète de l'accord du 31 décembre 2016 tel que stipulé par la résolution 2348. Rapatriement volontaire vendredi dernier de 8 sud-soudanais de Goma à Juba, la capitale sud-soudanaise, et puis libération d'une dizaine d'employés de la MONUSCO retenus hier dans le camp de Monigi. Tous ces employés sont retournés chez eux, sains et saufs. Dans le cadre du soutien de la révision du fichier électoral actuellement en cours dans le pays, la MONUSCO a organisé ce matin sa dernière rotation par hélicoptère entre Kinshasa et Kasongo-Lunda en province de Kwango. Près de 4000 tonnes de matériel ont ainsi été acheminées à travers le pays par les aéronefs de la MONUSCO. Et puis les informations de l'équipe pays seront présentées par Florence Marchal et l'actualité militaire de la semaine sera présentée par le lieutenant-colonel Serge Hague depuis Goma. Nos invités à la conférence de presse aujourd'hui sont José Maria Aranaz, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour le rapport mensuel de la situation des droits de l'homme en RDC, et puis le docteur Alarangar, représentant de l'Organisation mondiale de la santé en RDC, qui interviendra à l'occasion donc de la célébration de deux journées mondiales. Tout d'abord la journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril dernier, et puis la journée mondiale de lutte contre le paludisme, qui sera célébrée, elle, le 25 avril prochain. Tout d'abord, activité des composants de la MONUSCO. Déclaration de la MONUSCO sur les derniers développements politiques en RDC. Dans le cadre de la mission de bons offices confiée par la résolution 2348, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, M. Maman Sambo-Sidikou, rencontre tous les protagonistes de la crise pour essayer de trouver les voies et moyens pour mettre en œuvre intégralement et de bonne foi l'accord du 31 décembre. Dimanche, il a reçu une délégation du rassemblement et depuis lundi, il a reçu d'autres acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition, partie prenante de l'accord du 31 décembre 2016, y compris la CENCO. Pour la MONUSCO, il n'y a pas d'alternative à la mise en œuvre complète de l'accord du 31 décembre 2016, tel que stipulé par la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous devons tous travailler ensemble pour surmonter les obstacles à la tenue d'élections libres et crédibles d'ici la fin de cette année 2017. Information du bureau du représentant spécial adjoint chargé de l'état de droit et des opérations. Le 14 avril, 8 sud-soudanais hébergés au camp de Monigi en province du Nord Kivu, depuis le mois de septembre 2016, ont été volontairement rapatriés à Juba à partir de l'aéroport de Goma. Les 8 individus figuraient parmi les personnes qui avaient traversé la frontière de la RDC au parc national de la Garamba au mois d'août 2016. La MONUSCO s'emploie à fournir une assistance humanitaire à ces personnes, tandis que les gouvernements de la RDC et du Sud-Soudan, ainsi que les communautés régionales et internationales, cherchent une solution à leur déplacement. Le rapatriement volontaire de ces 8 personnes, le 14 avril, est le fruit de la coopération entre les gouvernements de la RDC et du Sud-Soudan. Les 8 personnes ont déclaré qu'elles retournaient volontairement au Sud-Soudan comme des civils. Le vice-ministre de la Défense de la RDC, l'ambassadeur du Sud-Soudan RDC, le représentant spécial adjoint de l'ONU en RDC, M. David Gressley, et le représentant du mécanisme conjoint de vérification élargie de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs et RGL ont assisté à leur départ à bord d'un avion affrété par le gouvernement de la RDC pour la circonstance. Les Nations Unies continueront donc à travailler avec les gouvernements de la RDC et du Sud-Soudan, ainsi qu'avec les communautés internationales et régionales pour trouver des solutions pour permettre au reste des Sud-Soudanais encore sous la charge de la MONUSCO à quitter donc la RDC. Autre information, la MONUSCO a le plaisir de confirmer que tous les 16 employés qui avaient été retenus par d'anciens combattants sud-soudanais du groupe SPLM-IO ont été libérés du camp de Monigi. Le camp reste calme et sous contrôle de la MONUSCO. Tous les employés retenus sont retournés chez eux à la maison hier nuit. Il n'y a aucune victime et la MONUSCO va ouvrir très bientôt une enquête sur cet incident. Information publique à Kalemi, le gouverneur de la province du Tanganyika, Richard Goy Kitangala, a procédé samedi à la réouverture officielle du trafic au pont de Kituka. La réhabilitation du pont de Kituka intervient après la visite de travail effectuée par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, M. David Gressley, en janvier 2017, dans la province du Tanganyika. Au cours de cette visite, M. Gressley avait promis l'appui de la MONUSCO à la réhabilitation de cet ouvrage. Ainsi, depuis samedi 15 avril, le pont de Kituku a retrouvé ses usagers et permet un accès facile au quartier général de la MONUSCO Kalemie. Pour rappel, le pont de Kituku est un ouvrage construit dans les années 2000. Il a subi plusieurs dommages, rendant notamment l'accès difficile à l'aéroport de Kaina. En 2002, la MONUSCO, à l'époque MONUC, est intervenue pour des travaux de réhabilitation plus durables. En décembre 2016, le pont de Kituku s'affaisse à nouveau suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kalemie, isolant ainsi plusieurs zones dans la base de la MONUSCO du reste de la ville. Le 12 avril, la section protection de l'enfant de la MONUSCO a organisé et facilité un atelier d'échange sur le thème les forces de sécurité de la RDC sont engagées dans la lutte contre les abus commis sur les enfants. Cet atelier a été l'occasion pour 100 officiers FRDC de la 3e zone de défense, dont 10 femmes, de poser des questions très concrètes sur la loi congolaise et internationale contre l'utilisation du recrutement d'enfants dans les zones en conflit, ainsi que les mesures de protection des enfants en zone de conflit. Le 13 avril, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, Boutembo et Lubero, a organisé une formation de 2 jours à l'intention d'activistes de la société civile et des ONG de défense des droits de l'homme de la commune rurale de Lubero. Durant 2 jours, 62 activistes, dont 20 femmes, ont échangé sur les thèmes de la protection et de la défense des droits politiques, des libertés publiques en période électorale. À Bukavu, le lundi 17 avril, la force de la MONUSCO, à travers la brigade du Sud-Kivu, a procédé à la remise d'une dizaine de panneaux solaires, de batteries, de convertisseurs, de groupes électrogènes, ainsi que des accessoires nécessaires à la 33e région militaire des FABC. Ce geste s'inscrit dans le cadre de l'appui logistique aux opérations militaires que mènent les FABC contre les forces négatives dans la province du Sud-Kivu. Voilà donc tout pour l'actualité dans les différentes composantes de la MONUSCO. À présent, nous retrouvons Florence Marchal pour l'actualité de l'équipe pays. Et je crois, Florence, que vous avez beaucoup d'informations. Vous voulez commencer par celle-ci, le soutien des Nations Unies à la révision du fichier électoral. C'est à vous, Florence.
Et oui, Charles, bonjour à tous. Et en effet, au moment où je vous parle, un hélicoptère effectue une dernière rotation entre Kinshasa et Kasongo-Lunda, dans la province du Kwango, ce qui clôture les opérations aériennes de la MONUSCO en soutien à la révision du fichier électoral actuellement en cours dans le pays. Au total, ce sont près de 3900 tonnes de matériel composé de kits bureautiques, kits d'enregistrement, cartes d'électeurs et générateurs qui ont été transportés entre le 28 octobre 2016 et aujourd'hui par 4 avions cargo affrétés spécialement pour l'occasion par la MONUSCO ainsi que 16 hélicoptères. En réponse à une requête formulée par la CENI en décembre 2015, il était prévu que les Nations Unies, et notamment la MONUSCO, assurent le transport aérien du matériel de révision du fichier depuis Kinshasa vers 15 centres et 107 antennes particulièrement difficiles d'accès, soit environ un peu moins de la moitié des antennes. C'est donc chose faite. Je vous rappelle que le soutien de l'Organisation des Nations Unies à la révision du fichier électoral est décrit dans la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Outre le soutien logistique, il s'agit d'apporter une assistance technique aux opérations de révision du fichier électoral et de promouvoir un processus électoral inclusif, crédible et transparent. Ce mandat a été confirmé par la résolution 2348 adoptée par le Conseil de sécurité le 31 mars dernier, qui stipule que l'appui à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral constitue l'une des priorités stratégiques de la MONUSCO. 665 ménages représentant plus de 3000 déplacés du site de Lukwangulo 2 dans la province du Tanganyika ont reçu la semaine dernière des articles ménagers essentiels distribués par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Des articles composés de bâches, habits, jerrycans, couvertures et ustensiles de cuisine. Le site de Lukwangulo 2 est l'un des 10 sites spontanés de déplacés internes autour de Kalemie. Il accueille depuis la mi-janvier des déplacés qui ont tenté d'échapper aux affrontements intercommunautaires dans les territoires de Nyunzu, Kalemie, Manono, Moba et Kabalo. Ce conflit a atteint son pic en février dernier, mettant plus de 116 000 personnes dans une situation humanitaire précaire. Les besoins d'assistance sur les sites de déplacés sont immenses. Le HCR et ses partenaires continuent à faire du plaidoyer afin de pouvoir leur apporter toute l'assistance nécessaire. Regard croisé dans la lutte contre les violences sexuelles, c'est le thème de la 2e édition du Café Genre, institué par ONU Femmes en RDC, un Café Genre qui se tiendra ce vendredi matin à l'Université protestante du Congo à Kinshasa. Parmi les intervenants annoncés, le représentant personnel du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants, ainsi que les ambassadeurs de Grande-Bretagne, Brésil, Soudan du Sud et Maroc. Donc vendredi matin à l'Université l'université protestante de Kinshasa. Et puis quelques brefs pour terminer, avec tout d'abord la bibliothèque du développement durable installée au sein du bureau du programme des Nations Unies pour le développement de Goma. Cette bibliothèque a été inaugurée aujourd'hui. Plus de 300 ouvrages y sont déjà disponibles. La stratégie de priorisation des dossiers de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité est en cours de finalisation. Des débats sont en cours à Kinshasa entre les auditeurs militaires, les procureurs, les présidents des juridictions civiles et militaires et d'autres experts venus des ministères de la Justice, de la Défense nationale et des anciens combattants. Cet atelier bénéficie de l'appui technique et financier du PNUD à travers un financement du Japon et de l'Union européenne. Par ailleurs, dans le cadre de son projet « Renforcer les radios locales par les technologies de l'information et de la communication », exécuté avec l'appui financier du Royaume de la Suède, l'UNESCO a organisé la semaine dernière à Kinshasa un forum national des radios sur l'éthique et leur durabilité sous les auspices des ministères de la communication et des médias.
Voilà, merci donc à Florence pour le partage de ces informations de l'équipe pays. Direction à présent Goma, nous allons retrouver le lieutenant-colonel Serge Hague pour la présentation de la situation militaire en RDC au cours de cette dernière semaine. Colonel Hague, bonjour, c'est à vous.
Merci. Situation militaire. La situation sécuritaire dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo, RDC, y compris la ville-province de Kinshasa, a été jugée calme durant la semaine écoulée. Dans les provinces situées dans la partie centrale de la RDC, notamment le Kasaï central, elle a été jugée imprévisible, étendue du fait de l'activisme des miliciens Kamuna Nsapu. Dans la province du Kasaï, la tension interethnique liée à l'activisme des miliciens Kamuna Nsapu, rapportée dans le territoire de Kamonia, entre les communautés Tchokwe, Pende et Lulua, Lubafon, a provoqué des accrochages, causé de nombreuses victimes et des déplacements de populations civiles. Au Kasaï central, les incidents liés aux meurtres, incendies, destructions de maisons et des paroisses catholiques perpétrées par les miliciens Kamuna Nsapu ont provoqué le déplacement de plus de 600 individus vers la brousse. La MONUSCO maintient sa présence sur le terrain par la conduite d'importantes activités destinées à lutter contre les violations des droits de l'homme et à assurer la protection des populations civiles. Ainsi, le 11 avril 2017, une mission conjointe constituée de membres du bureau des droits de l'homme et de la police onusienne a été déployée dans la localité de Luisa, où plusieurs incursions de miliciens Kamuna Nsapu ont été rapportées dans le but d'évaluer la situation sécuritaire et de mener des investigations. Le 15 avril 2017, la force de la MONUSCO, dans le cadre de son mandat de la protection des populations civiles, a assuré avec succès l'escorte de 22 religieuses catholiques dont la sécurité était menacée par des miliciens Kamuna Nsapu au cours d'une extraction héliportée effectuée de Boulongo, 168 km au nord-ouest de Kananga, vers la ville de Kananga. Dans les provinces de Haut et de Bawele, la situation sécuritaire a été rapportée relativement calme. Elle est surtout caractérisée par la résurgence de l'activisme des éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur LRA et la reddition de certains de ses membres. Les opérations militaires rigoureuses menées par les forces coalisées FRDC et MONUSCO dans ces provinces ont poussé 22 éléments de la LRA à se rendre volontairement auprès des équipes de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réintégration basées dans la localité de Bangadi. En Ituri, les forces congolaises et onusiennes ont fourni des efforts significatifs en vue de mettre un terme à la recrudescence d'activisme des éléments du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, rapporté dans les localités situées au sud du territoire d'Irumu. En soutien à l'armée congolaise, les casques bleus de la MONUSCO ont repoussé des attaques menées par des éléments du FRPI dans la localité de Ruzenga, Mudogo et effectué des patrouilles intensives dans la localité de Sissa dans le but de dissuader d'autres incursions des insurgés du FRPI. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire a été jugée globalement calme, mais marquée dans certains territoires par des rivalités liées au contrôle de terrain et aux appartenances ethniques entre certains groupes armés ayant conduit à des affrontements dans quelques localités de cette province. Dans le territoire de Rutshuru, les accrochages entre les éléments du groupe Mai Mai Mazembe et ceux de la coalition Natura FDL, Force démocratique de libération du Rwanda, ont été rapportés dans les localités de Mozambique et de Kawimiro. le 14 avril 2017, dit ressortissant nandais, kidnappé par les éléments supposés appartenir au LRA Natura, dans la localité de Kayuendo, près de Kibirizi, ont été libérés suite à une rencontre intercommunautaire présidée par l'administrateur du territoire, mais également à la pression exercée par des patrouilles vigoureuses de domination de terrain menées dans cette région par la force de la MONUSCO. En conséquence, le 17 avril 2017, plus de 40 familles sont retournées dans la localité de Kisheche suite à l'amélioration de la situation sécuritaire dans la région. Au chapitre des réditions, dans la province, du 12 avril 2017 à ce jour, deux éléments en provenance des groupes armés, dont un du groupe Mai Mai Mazembe, se sont rendus aux troupes des forces congolaises et onusiennes déployées dans la province. Au sud Kivu, en dépit de l'activisme de quelques groupes armés, les forces onusiennes et congolaises maintiennent sous leur contrôle la situation sécuritaire par la conduite des opérations militaires vigoureuses. Au Tanganyika, la situation sécuritaire est demeurée relativement calme mais volatile. Les conflits Twa Bantu et Twa Banyamulenge demeurent toujours une source de préoccupation majeure quant à la situation sécuritaire dans cette partie du pays. La mise en application du mécanisme de la stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité à Kalemie a permis de réduire sensiblement les incidents liés au crime violent dans la province. Les unités de la force de la MONUSCO continuent également de fournir des efforts significatifs dans les zones de leur déploiement dans le but de mettre un terme aux conflits interethniques et de restaurer l'autorité de l'État dans cette province. Enfin, la force de la MONUSCO a maintenu un très haut niveau de patrouille armée de jour comme de nuit et a fourni plusieurs escortes, soit pour évacuer des civils blessés, soit au bénéfice d'organisations non gouvernementales ONG pendant la période sous examen. Je vous remercie.
Voilà, merci donc au colonel Serge Haas pour ce tour d'horizon de l'actualité militaire de cette dernière semaine. Nous allons revenir ici à Kinshasa pour donner la parole à notre premier invité. Il s'agit de José Maria Aranaz du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et comme tous les mois, il va nous faire le point de la situation donc des droits de l'homme en RDC. Bonjour José Maria Aranaz, la parole est à vous.
Bonjour Charles, bonjour chers collègues de la presse, bonjour tous les auditeurs de Radio Capi. Dans le mois de mars, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté 547 violations dans le territoire de l'RDC qui représentent une hausse considérable, une augmentation de la chiffre de violations des droits de l'homme par rapport à la situation en février. Les principaux types de violations documentées sont violations au droit à la liberté et à la sécurité des personnes et droit à l'intégrité physique. Les agents étatiques sont responsables de presque 60% de ce type de violations, donc 66 victimes d'exécutions sommaires et ou extrajudiciaires. Les groupes armés ont été responsables de 221 violations sur les territoires affectés par les conflits. 117 civils ont été tués dans les territoires affectés par les conflits, dont 35 par les groupes armés. 33 adultes plus 15 filles ont été victimes de violences sexuelles liées au conflit, 16 par les agents étatiques. Nous avons aussi enregistré 73 violations des droits et libertés fondamentales qui sont des relations avec l'espace démocratique. Ça veut dire un total de 1539 violations des droits civils et politiques depuis janvier 2015. Dans le cadre de la lutte contre l'impunité, au moins un agent de la PNC a été condamné par des actes constitutifs de violation des droits de l'homme. Et dans le mois de mars, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé 32 activités de renforcement des capacités dans le territoire de la RDC. Merci beaucoup.
Voilà, merci donc à José Maria Aranaz pour ce tour d'horizon du rapport mensuel sur la situation des droits de l'homme. Et comme d'habitude, à la fin de cette conférence de presse, vous allez donc recevoir l'intégralité de ce rapport mensuel pour votre propre usage. Deuxième invité de cette conférence de presse, le docteur Alaranga, représentant de l'Organisation mondiale de la santé ici même en RDC. Il intervient dans le cadre, je le disais, de deux journées. Tout d'abord, la journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril et puis la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui sera célébrée dans quelques jours. Docteur, bienvenue et bonjour. La parole est à vous donc pour tout l'horizon de ces deux journées.
Merci beaucoup. Chers auditeurs de Radio Okapi, à travers la République démocratique du Congo et dans le monde, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la Journée mondiale de la santé. Cette journée est célébrée chaque année le 7 avril pour marquer l'anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé. Pour cette année 2017, le thème est la dépression et le slogan est « Dépression, parlons-en ». Mais qu'est-ce que la dépression ? La dépression est une maladie qui se caractérise par une tristesse permanente persistante, une perte d'intérêt pour les activités qui, normalement, procurent du plaisir et une incapacité à accomplir les tâches quotidiennes. On parle de dépression si ces symptômes sont présents pendant deux semaines au moins. La dépression se manifeste généralement par les symptômes ou signes suivants. Perte d'énergie, modification de l'appétit, l'insomnie ou hypersomnie, anxiété, difficulté de concentration, difficulté à prendre des décisions, agitation, sentiment d'inutilité, de culpabilité ou de désespoir, pensée autour de l'automutilation ou du suicide. Quels sont les facteurs de risque de la dépression? Les principales causes de la dépression peuvent se résumer comme suit. Perte d'un être cher, pauvreté, chômage, rupture sentimentale, maladie physique, usage nocif de l'alcool, consommation de drogues illicites ou encore des situations traumatiques telles que les violences et les guerres. Bien qu'il existe des traitements connus et efficaces pour combattre la dépression, moins de la moitié des personnes affectées dans le monde, souvent moins de 10% dans certains pays en développement bénéficient de tels traitements. Le manque de ressources, la pénurie de personnel soignant qualifié et la stigmatisation sociale liée aux troubles mentaux sont autant d'obstacles à l'accès aux soins efficaces. Mais il y a un besoin d'investir dans la santé mentale. En moyenne, seulement 3% des budgets publics pour la santé sont alloués à la santé mentale et ce chiffre est de moins de 1% dans les pays à faible revenu. Aujourd'hui, la dépression touche plus de 300 millions de personnes dans le monde avec une augmentation de plus de 18% de 2005 à 2015. Elle est la principale cause d'incapacité à l'échelle mondiale et contribue fortement à la charge mondiale de la maladie. Près de 30 millions de personnes souffrent de cette affection dans la région africaine. En République démocratique du Congo, le Programme national de la santé mentale estime à près de 2 millions le nombre de personnes souffrant de la dépression en 2015. Avec des soins, une aide psychosociale et des médicaments appropriés, des dizaines de millions de personnes souffrant de troubles mentaux et notamment de dépression pourraient commencer à mener une vie normale même lorsque les ressources sont limitées. Les individus, les familles et les communautés peuvent prendre des mesures pour prévenir la dépression en aidant à éviter des situations stressantes, l'usage nocif de l'alcool et la consommation de drogues illicites. L'OMS a publié des lignes directrices pour permettre aux pays d'améliorer les services de soins de santé pour les personnes atteintes de troubles mentaux. Ce document a été élaboré avec le concours des experts en santé mentale des États membres, y compris des experts de la République démocratique du Congo. Vous comprendrez aisément, mesdames et messieurs les auditeurs, que chacun de nous a un rôle clé à jouer dans la prévention et la prise en charge de la dépression. En ce qui concerne le paludisme, comme chaque année, nous allons célébrer le 25 avril prochain la journée mondiale du paludisme. Le paludisme reste une priorité mondiale et régionale car il continue de faire encore plus de 400 000 morts chaque année dans le monde. Ainsi, le paludisme constitue encore un problème de santé publique en Afrique subsaharienne et particulièrement en République démocratique du Congo. En effet, le rapport de 2015 de l'OMS relève 19 millions de cas de paludisme et 42 000 décès en République démocratique du Congo, et soit une incidence de la mortalité de 40% à partir des données de 2010-2015. Le rapport de 2016 du Programme national de lutte contre le paludisme estime à 12 186 000 cas de paludisme et 39 000 décès. Le thème retenu pour cette année est « En finir définitivement avec le paludisme » qui souligne la nécessité d'accélérer et de consolider les efforts afin de vaincre le paludisme. Les pays ont décidé de mettre fin à l'épidémie de paludisme d'ici 2030, faisant de cet engagement l'une des cibles des objectifs de développement durable. Pour accélérer les progrès vers les cibles mondiales et régionales, l'OMS appelle les pays touchés par le paludisme et leurs partenaires au développement à augmenter leur investissement dans la prévention du paludisme afin de placer résolument ces pays sur le chemin de l'élimination. Je vous remercie.
Voilà, merci donc au docteur Alaranga, représentant de l'OMS ici en RDC, qui intervenait donc dans le cadre de ces deux journées, la journée mondiale de la santé, célébrée déjà le 7 avril dernier, et puis bien entendu la journée mondiale de lutte contre le paludisme, qui sera célébrée, celle-là donc, le 25 avril prochain. Nous allons passer à la deuxième...